laisser passer.
Ah oui, vous pouvez passer.
Bonjour à tous et bonjour à vous, Jean-Marie Delarue.
Bonjour chacune, bonjour chacun.
Voilà, on vous accueille parce que vous êtes le président de Concertina, les premières rencontres estivales sur l'enfermement à Dieulefit ce week-end. Et aussi parce que, et l'un explique l'autre, vous avez été le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014. Alors on va parler de cette fonction dans une première partie avec Zied, on va vous questionner. Bon, c'est le reflet de la diversité de notre radio, peut-être Zied vous diras-tu, moi je vous dis vous. Voilà, on y va comme ça, comme on le sent. Donc une première partie sur le contrôle, une deuxième partie sur votre parcours personnel et professionnel aussi, bien sûr. Et puis, on finira par une troisième partie sur l'actualité depuis 2014, justement, depuis que vous avez abandonné cette fonction de contrôleur. Alors, Zied, peut-être une question de base.
Oui.
C'est quoi le rôle d'un contrôleur? C'est un peu ça qu'on a envie de savoir.
Oui, c'est quoi ce rôle de, comment il a été créé? Comment c'est arrivé? Voilà, déjà, en tant que personne, on se demande bien...
À quoi vous servez quand vous êtes contrôleur?
Oui, il vaut mieux savoir à quoi on sert en général. C'est une institution neuve, non seulement en France, mais ailleurs. C'est à l'origine un traité des Nations Unies qui a permis aux États qui le souhaitent de créer une instance indépendante, un organisme indépendant, chargé de prévenir la torture. La torture, c'est-à-dire... pas seulement le fait d'envoyer de la gégène comme on faisait pendant la guerre d'Algérie, mais le fait aussi de prévenir, c'est-à-dire d'empêcher tout traitement cruel, inhumain, dégradant. C'est là les termes du traité. Et donc, la loi française, puisque la France a adhéré à cette convention internationale, a créé ce mécanisme. Mais elle ne s'est pas limitée à la prévention de la torture au sens où je viens de le dire. Elle a dit... Le contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est comme ça qu'elle l'a baptisé, ça sert à protéger les droits fondamentaux de toute personne privée de liberté. Droits fondamentaux, ça veut dire, au fond, la dignité de la personne. Et privation de liberté, ça voulait dire les prisons, bien sûr, les hôpitaux psychiatriques où sont enfermés des gens contre leur volonté, les centres de rétention pour étrangers, les centres éducatifs pour jeunes, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie où il y a des gardes à vue, bref, tout lieu où une personne est sans son consentement privée de liberté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller sur place, ça veut dire discuter avec les gens, voir comment fonctionne l'établissement pour savoir si les droits des personnes sont effectivement respectés. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut s'entourer d'une équipe solide. Moi, j'ai choisi mon équipe en 2008.
Et donc, librement.
Donc c'est absolument ça, librement.
Donc, librement. Avant, donc c'est, t'as choisi ton équipe, mais comment t'es arrivé aussi, comment c'est arrivé que t'es eu ce poste en fait?
Oh, c'est le hasard. Enfin, le hasard.
Y a-t-il du hasard en politique?
Non, mais
c'est-à-dire que c'est une création. C'est une création. C'est nouveau. Et, voilà.
T'es parti de zéro. Je pense que le gouvernement a cherché des candidats. Il a trouvé personne à ma connaissance. Donc, moi, je ne suis pas au courant des tractations qui ont été faites à ce moment-là, pour définition.
Donc, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, hein, en l'occurrence.
Le gouvernement de François Fillon, sous la présidence Sarkozy, a cherché des gens. Manifestement, il n'a pas trouvé. Donc, moi, j'étais, je suppose, le 200e qu'on a appelé au téléphone. Parce qu'il se trouve que dans les 6 années précédentes, j'avais présidé une autre commission qui s'appelait la commission de la détention provisoire, qui était une commission complètement inconnue, mais qui s'occupait quand même un peu des prisons. Et donc, faute de candidats valables, je suppose, on a fini par appeler le dernier sur la ligne. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui.
Mais c'est qui est de l'autre côté du téléphone?
C'est le directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque.
D'accord, donc c'est vraiment l'apanage du gouvernement, le choix de ta personne, de votre personne, pardon.
C'est une nomination politique.
Non, je ne crois pas, parce que moi, je ne connaissais, j'ai jamais vu François Fillon avant, je n'ai jamais vu Nicolas Sarkozy avant, et donc je n'étais pas...
C'est vrai qu'en ce moment, il vaut mieux dire que je ne les ai jamais vus, pour toutes leurs histoires avec la justice.
Non, mais
vaut mieux dire
la réalité. Non, mais tu as raison. Je crois qu'il vaut mieux dire la réalité.
Non, mais c'est clair.
On peut même considérer, Zied,
que... Ce que je voulais pointer, c'est que... C'est pas un poste électif, c'est pas démocratique, mais ça n'a pas été, c'est pas suite à une élection, ou une, c'est une désignation. C'est une désignation.
Oui, c'est une désignation, comme le sont toutes les responsables des autorités administratives indépendantes dans ce pays.
On peut même dire que gouvernement a choisi quelqu'un du camp d'en face, entre guillemets, puisque vous aviez été conseiller ministériel sous François Mitterrand dans le cabinet d'Elbar, je crois.
C'est pour ça que je pense que j'étais loin sur la liste des candidats possibles. Et je rappelle que j'ai été un des premiers à être soumis à l'approbation des assemblées parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui ont donné leur opinion, qui ont voté sur l'opportunité ou non de ma candidature. Voilà.
Ah, quand même, il y a eu quand même une consultation.
Donc, une espèce de contrôle parlementaire quand même sur cette désignation.
Okay. Alors, c'est bien, on en sait plus sur comment vous êtes arrivé à ce poste. Maintenant, on a des questions avec Ziyed sur les moyens quand même, en allant un petit peu plus loin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'équipe du contrôleur? Ça comprend qui et comment? Alors là, vous avez choisi vos collaborateurs.
Comment tu les as choisis?
Ça comprend trois sortes de personnes. Des contrôleurs à temps plein, des contrôleurs à temps partiel, deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être là à plein temps, mais qui sont prêts à donner une partie de leur temps pour, souvent des retraités. Et troisièmement, des gens que j'ai embauchés pour gérer le courrier que nous recevons, parce que nous avons le droit d'être saisis par courrier, par tout détenu, etc. Bon. Donc, trois sortes de personnes. Au total, 40. C'est-à-dire 20 contrôleurs à temps plein, une petite quinzaine de contrôleurs à temps partiel
et contrôleuses.
Le reste contrôleurs et contrôleuses naturellement et enfin les gens qui s'occupent de gérer le courrier qui étaient en général des jeunes juristes, on va dire les choses comme ça. Bon, pour les premiers contrôleurs et pour les seconds contrôleurs à temps partiel, qui j'ai choisi? J'ai choisi des gens relativement âgés qui avaient beaucoup d'expérience parce que ils connaissaient bien le métier. J'ai choisi des professionnels, d'une part, c'est-à-dire des gens qui ont été policiers, gendarmes, surveillants, pénitentiaires, et deuxièmement, j'ai choisi des membres d'associations. Donc, il y a eu un type de la Croix-Rouge qui est venu. Il y a eu le fondateur de l'OIP, en l'espèce Bernard Bols, qui s'est déjà exprimé ici, je l'espère. Et des gens comme ça. Et puis, troisièmement, quelques magistrats judiciaires.
Alors, juste une question par rapport aux personnes âgées et les professionnels. Pourquoi ce choix?
Parce que je veux des personnes qui aient de l'expérience à la fois professionnelle, c'est-à-dire qui savent comment fonctionne un commissariat de police, et d'autre part, des gens qui aient suffisamment d'expérience humaine pour ne pas succomber à la difficulté psychologique d'entrer dans des situations dramatiques. C'est-à-dire, nous sommes confrontés, lorsque nous entrons dans un établissement, commissariat de police, on rencontre des gens en garde à vue, qui sont au fond de l'abîme, c'est un peu déstabilisant. Et donc, moi, j'avais besoin de gens équilibrés. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai rencontré quelqu'un qui était candidat, j'ai eu 270 candidats.
Qui ont postulé. Eux-mêmes.
Et donc, j'ai eu le choix. Et puis j'ai eu quelqu'un, elle m'a plu, cette femme, etc. C'était une inspectrice des affaires sociales, pour ne rien cacher. Et puis un jour, à la veille du jour où je devais la rappeler pour lui dire « je suis d'accord », elle m'appelle et lui dit « vous savez, j'ai un peu d'appréhension à entrer en prison ». Je lui ai dit « chère madame, c'est terminé, au revoir ». Voilà. Donc, il faut avoir des reins solides pour faire ce métier. Je dis ça.
Pour le côté, par exemple, comme tu dis, professionnel, pas le côté humain, sentimental et les reins solides.
Je parle du côté sentimental. L'autre côté,
par exemple, quand tu disais, il faut des anciens gendarmes, des anciens militaires ou des anciens commissaires. C'est ce choix-là. Pourquoi ce choix-là des anciens commissaires qui savent comment fonctionne la prison? Est-ce qu'il y a besoin de savoir comment fonctionne le commissariat ou la prison pour un peu aller contrôler ça?
Un ancien détenu sait comment ça fonctionne aussi.
Non, mais un ancien détenu ou alors un humaniste quelconque, on va dire, avec les reins solides. Mais ça peut être un citoyen avec les reins solides. C'est une question, c'est pas des reproches, là.
Je peux avoir des reproches aussi, je crains pas les reproches.
Plus tard.
Pour les détenus, moi, je le désirais aussi, et la réglementation me l'interdisait. C'est-à-dire il y a eu un décret en 2008 qui a précisé que les gens devaient avoir un casier judiciaire vierge. Donc ça supprimait la possibilité de recruter des anciens détenus. Je me suis rattrapé pour autant. Bernard Bols, qui a été choisi pour être dans l'équipe, a fait de la prison comme objecteur de conscience, etc. Il a dû vous le dire. Donc il y avait quand même un ancien détenu, il y avait d'autres gens qui avaient approché. Pourquoi est-ce qu'il faut des gens qui connaissent le fonctionnement des institutions qu'on visite ? Ça fait gagner un temps fou. Bon, moi, je vais vous prendre un seul exemple. Quand on visite une prison, les détenus, ils se protègent, ils protègent leur intimité en mettant des rideaux aux fenêtres, par exemple. Bon, les rideaux aux fenêtres, c'est interdit par les règlements. Si vous trouvez des rideaux aux fenêtres dans une prison, c'est que la prison, les détenus font un peu ce qu'ils veulent. Bon. Si vous ne trouvez pas de rideaux aux fenêtres, c'est que le directeur fait observer le règlement. Bon. Quand vous savez ça à l'avance, mais ça vous donne tout de suite une idée sur la manière dont fonctionne la prison. Et vous gagnez un temps fou.
La température.
La température, voilà. Et si je n'avais pas ces éléments-là avant d'arriver... Bon, et donc, c'est ça que les gens ont été... Autre exemple, j'ai rencontré, enrôlé, une psychiatre qui avait d'ailleurs exercé, en plus, en détention. Elle nous a expliqué comment il fallait parler à des schizophrènes quand on visitait un hôpital, un établissement de santé mentale. Ne jamais lui serrer la main, parce qu'il prend ça pour une agression. Si elle n'est pas là pour nous dire ça, on va faire des bêtises et on va rompre le dialogue qu'on essaye de nouer avec ceux qui sont privés de liberté. Donc, tout ça, c'est pour se prémunir contre les erreurs.
Alors là, pour le coup, là, je pense que c'est plus le côté reproche. Et est-ce que tu ne penses pas que, justement, des gens qui connaissent un peu le milieu, ou en tout cas ce fonctionnement-là, justement, ils n'ont pas un regard un peu extérieur, un peu pas neutre, mais quand même un regard de « Ah, je ne suis plus choqué par cette situation parce que je la connais déjà. » Un commissaire, bon, mais il voit très bien ce que c'est qu'une salle de garde à vue, ou un ancien gendarme. Donc, quand il est censé arriver pour justement contrôler et dire « Ah, ça va pas », vu qu'il a déjà un passif et que pour lui, peut-être, c'est une norme, est-ce que tu ne penses pas que justement ça fausse un peu le... C'est une question.
Non,
c'est une question reproche. C'est une question reproche.
Non, moi je pense tout à fait comme vous. Et je pense que c'est pour ça que moi je souhaitais aussi qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire. Je vais vous prendre un exemple. La première fois qu'on a vu un hôpital psy, il y avait des pénitentiaires, des gens de la pénitentiaire, dans l'équipe de contrôleurs. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, les hôpitaux psy. Quand on a envoyé le psychiatre dans une prison, il a dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est dur la prison bon. !» Mais le regard pluridisciplinaire nous aide à objectiver un petit peu la situation, c'est-à-dire que, en effet, le commissaire est enclin à nous dire bah, « c'est normal, c'est là », et les autres vont lui dire « non, c'est pas normal ». Parce que ce qui nous unissait tous, ce qui unit tous une équipe, c'est la recherche de la violation des droits fondamentaux.
Mais du coup, comment tu jugeais un peu au recrutement, comment tu les ceux qui postulent, comment tu jaugeais leur volonté de contrôler positivement en fait, ou en tout cas remettre un peu à plat ces conditions. Comment tu arrivais à jauger la personne, tu dis à lui, en fait, je le sens, il est pour.
Plus je prends de l'âge, plus j'ai du mal à juger les personnes et donc aller jauger comme tu dis. Oui, mais j'ai pris le risque. Voilà, c'était tout. Hein. Donc, c'est mon choix personnel. Et je dois dire que pour la première vague de recrutement, je ne me suis pas trompé. Je me suis trompé peut-être un peu plus tard après. Mais
alors,
voilà.
Jean-Marie Delarue, je rappelle que vous avez dirigé le contrôle général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014, pendant les 6 premières années de cette institution. Comment ça se passait, et comment sans doute ça se passe encore aujourd'hui, l'arrivée d'une équipe? Donc 4 personnes, hein, je crois, 4 ou 5 personnes.
Ça peut être plus.
Ça peut être plus, dans une prison. Elle prévient de son arrivée? Elle tape à la porte sans avoir prévenu? Elle entre? Qu'est-ce qui se passe derrière?
Alors, les effectifs de l'équipe varient suivant la grosseur de l'établissement. Il ne faut jamais être seul. Ça, c'est le principe de base. Parce que, justement, on a besoin de plusieurs regards pour apprécier la situation. Et après, on se confronte entre nous. Deuxièmement, il faut proportionner l'équipe quand même aux dimensions d'établissement. Quand on a été au Beaumetre, à Marseille ou à Fleury-Mérogis, on était, quasi-totalité des contrôleurs, on était plus de 20. Bon. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut rester longtemps. Il faut aller le jour, il faut aller la nuit. Parce que la nuit, les gens parlent plus, et notamment du côté du personnel. C'est comme ça, parce qu'ils sont moins occupés, parce que la nuit, on se livre plus. Donc il faut y aller la nuit. Troisièmement, il faut y rester longtemps parce que le premier jour, les gens nous regardent comme ça, le deuxième jour, hein, et puis le troisième jour, on fait partie du paysage. Il faut, au Beaumettes, on est resté 2 semaines, y compris le week-end, parce que le week-end, c'est pas comme le reste de la semaine,
etc. On rencontre et on re-rencontre.
Oui, oui, absolument.
Deuxième rencontre, il se passe
autre
chose.
Absolument, absolument. La première fois que les gens nous voient, on est regardé comme des bêtes curieuses. On a même été hué une fois dans une prison du nord de la France, peu importe. Mais après, on devient, voilà, encore une fois, des familiers, si je puis dire. Et puis, on apprend, parce que le deuxième jour, quand on est là, je vais vous dire les choses comme elles se passent. On se trouve, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, cette prison. Ça, voilà, bon, c'est propre, c'est convenable. Puis les gens... Et puis... troisième jour, quatrième jour, non, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis au fil des conversations, et au fil des observations, et au fil de ce qu'on découvre à l'improviste, hein, d'un truc qui y va, au fil aussi de la découverte de tous les locaux, parce qu'il faut voir tout, au fil du dépouillement de tous les documents, parce qu'on lit tout, eh ben, on découvre des choses. Bon. Et donc,
vous parlez avec les détenus, par exemple ?
Bien sûr, mais bien sûr.
Librement ?
Mais bien sûr, on est isolés, on leur dit, on leur explique qui on est, et on dit qu'ils peuvent parler librement parce qu'on ne dira rien de cet entretien.
Ça se passe où, par exemple, une discussion avec un ou des prisonniers ? Dans leur chambre, dans une salle, dans leur
n'importe
chambre ?
Où. N'importe où, pourvu qu'il n'y ait pas de surveillants et pourvu qu'il n'y ait pas de tiers co-détenus. Parce qu'il y a des gens qui se font peur. Hein.
Ouais, bon. Le fait même de vous parler, vous avez conscience que vous arrivez, vous, citoyen libre, avec une fonction officielle, mais vous rencontrez des gens qui sont contraints, qui sont surveillés, qui peuvent subir une répression.
Oui, absolument.
Et comment vous faites avec ça ?
Et surtout après coup. Et donc, la principale difficulté de notre métier, c'est les représailles.
Et oui.
Après. Hein ? Bon, parce que dans les prisons, on n'aime pas, le personnel n'aime pas beaucoup qu'on vienne nous voir.
N'importe quelle profession, d'ailleurs.
Donc, oui, bien sûr. On est d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, la première institution de ce pays qui va voir les fonctionnaires travailler sur le terrain pour les juger. La première. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein, je voudrais insister sur ce point. Mais je ferme la parenthèse. Pour les représailles, moi, j'en suis parfaitement conscient. Et donc, il fallait organiser notre départ pour qu'on laisse, en quelque sorte, sur place, des témoins qui puissent nous dire après ce qui s'est passé. Et donc ça peut être des gens, moi je me souviens de la première visite qu'on a fait dans une prison de la région lyonnaise, pas très très loin d'ici, on va dire, il y avait un type qui représentait l'entrepreneur privé qui assure le travail dans la prison, qui était très très à fond sur, sur ce qu'on représentait, etc. Je lui ai dit, vous nous dites ce qui va se passer après. Dans une maison centrale du nord de la France, il y avait des cours de philo. Et j'ai fait la même demande au prof de philo, etc. Et on a été en correspondance après. Ça ne marche pas toujours, mais c'est le moins qu'on pouvait faire. Et puis après, il ne faut pas oublier que les gens peuvent nous écrire. Bon. Alors, il y a des gens qui ont aussi, même problème, des difficultés à nous écrire. Ils ne veulent pas prendre le risque. Mais il y a des gens qui le prennent quand même. Hein. Il faut rendre hommage aux détenus qui prennent des risques. Bon. Donc, bon an, mal an, on peut essayer de pallier à ça. Mais je suis d'accord avec vous, on n'écarte jamais complètement ce genre de situation parce qu'on est dans une situation totale, comme disait le sociologue. Autrement dit, il y a des possibilités de punition derrière. C'est
du coup, même avec ce risque-là, les gens, ils prenaient quand même, enfin, même en sachant, en imaginant les représailles, les gens, ils se livraient quand même.
Oui, parce que pour eux, on est une chance hein, aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire...
Donc, ils prennent un risque. Quoi.
Mais oui, ils prennent un risque. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ils prennent un risque. Mais ils ont le risque de quelqu'un qui va apporter derrière peut-être une solution à leurs difficultés et qui va être quand même le garant de quelque chose après. Bon. Donc, ils ont assez vite identifié quand même. Les premières visites, on n'était pas connus.
C'était
mais
nouveau,
au bout de 2 ans, tout le monde en prison, je crois à peu près, savait qui on était. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et plus le temps passait, plus l'institution prend sa place dans le paysage et plus aussi les représailles deviennent difficiles. Parce que derrière, le personnel sait qu'on peut... Voilà. Donc, le problème n'est pas complètement résolu. J'en ai absolument conscience. Et vous avez raison de me souligner. C'est pour moi la grosse question d'une institution de cette nature.
Au bout de 2 ans, on était connus, dites-vous, parce que vous aviez pris, Jean-Marie Delarue, le parti de publier vos rapports. Et que, du coup, l'opinion publique, dont, évidemment, les détenus et leurs proches, ont compris que voilà, les dysfonctionnements étaient notifiés dans des rapports et que ces rapports étaient publié.
Oui, la loi prévoyait qu'on pouvait publier certains de nos rapports. J'ai pris le parti de publier tout. Et puis les détenus se sont aperçus que dans ces rapports, alors qu'ils leur sont parvenus plus ou moins facilement, on prenait en compte leurs paroles. Leur parole était un témoignage pour nous important.
Cité, vous les citiez.
Ah non, non, oui, mais cité de façon anonyme.
Oui, bien sûr, j'entends.
Et pour qu'ils ne puissent pas être identifiés, parce que l'identification géographiquement, en prison est très facile. Bon. Et pour les petits établissements, c'est très très difficile. Bon, il y a aussi une difficulté là. Mais ils savaient que leur parole était importante. Et je dirais pour un détenu dont la parole n'a jamais aucune importance, prendre le risque de nous venir nous voir, c'était aussi reprendre un peu de sa personne et reprendre un peu de la valorisation de soi-même qu'ils ont complètement perdu en prison. Ça aussi, c'est une thérapeutique qui est un effet indirect du contrôle.
Vas-y, je reviens juste un peu sur ces visites, sur les visites de prison. Deux questions quand même un peu. Comment ton équipe rencontrait le directeur de la prison? C'était quoi le rapport avec le directeur de la prison et le personnel pénitentiaire? C'est quoi? Tu arrivais aussi, il y avait une discussion dans le. Au final, tu faisais un compte rendu au directeur de prison ou des recommandations? Ou tu as fait une visite au Beaumet? Tu rencontres bien le président, j'imagine. Le directeur de la prison. Peut-être même le chef des matons, enfin le chef des surveillants. Alors comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, il y a des pressions? Est-ce qu'il y a des petites pressions, des coups de pression? Est-ce qu'ils tentent, ils tentent pas?
Alors, il n'y a pas de pression, mais je vais y revenir. Mais pour le contact, je crois qu'il faut que le personnel dans la prison dans laquelle on vient soit de façon improvisée, sans prévenir, soit de façon en prévenant, on peut y revenir si vous le souhaitez, il faut que le personnel sache qui on est et pourquoi on est là. Et donc, nous commencions toujours par une réunion tout à fait officielle avec le directeur et son état-major, on va dire les choses comme ça, pour simplifier, y compris le médecin de la prison, l'instituteur, etc., pour leur expliquer pourquoi on était là, ce qu'on allait faire, etc. Pas combien de temps on allait rester, ça c'était nous, pas qu'est-ce qu'on allait voir exactement, mais on leur disait, on est là pour vérifier que les droits fondamentaux sont respectés. Et on leur disait, vous allez dire ça à tout votre personnel. Bon, qu'on soit bien identifié. Après, on dit au directeur, maintenant, vous êtes gentil, vous nous fichez la paix, et tous les mouvements qu'on va faire dans la prison, tout l'accès aux documents, c'est nous qui décidons, c'est pas vous.
Donc il y a un décret,
la loi nous autorise à voir qui nous voulons et à consulter toute espèce de documents et aller dans tous les locaux.
Vous faire ouvrir toutes les portes.
Oui, absolument. Je vais vous raconter une anecdote marrante. Tiens, dans un commissariat de police, on débarque, petite équipe, et il y a là officier de police qui nous dit oh non, n'entrez pas dans cette cellule, elle est inoccupée, ça n'a aucun intérêt pour vous, etc. Ah bon, si, on aimerait bien voir, etc. etc. Non, je vous assure, il n'y a personne dedans. Oui, mais
quand même, il tente quand même.
Bon, alors, au bout de 10 minutes, on se fait ouvrir la cellule, qu'est-ce qu'on découvre? Une cinquantaine de bonnes bouteilles de bon vin. Oui, c'est le résultat d'une perquisition qui vient d'avoir lieu. Et puis, finalement, c'était la réserve de bouteilles de l'abri. Bon. Et donc,
leur frigo, quoi.
Tout ça pour dire que les pressions, ça nous est égal parce que c'est nous qui décidons la manière dont la visite se passe, strictement. Voilà, de A à Z.
Vous contrôlez ces lieux de privation de liberté à l'aune de quelles règles? Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne prison? Parce que finalement, c'est ça en toile de fond, c'est-à-dire que vous voulez encourager non seulement les bonnes pratiques, mais le respect de la loi.
Bien sûr. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne prison, pour commencer. Il n'y a pas de bonne prison, je veux dire qu'il n'y a pas de prison du bonheur, ça n'existe pas. Mais pour reprendre quand même votre question, c'est ce qui nous guide. J'avais dit à mes contrôleurs, mais ce n'est pas la loi qui vous importe, parce que la loi peut être imparfaite en France. c'est les principes internationaux qui sont ceux des droits de l'homme, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. etc. Bon, c'est cela. C'est des principes un peu abstraits, hein, mais qui sont bien identifiés maintenant depuis 50 ans dans ce pays. On sait que ça veut dire le droit à la vie familiale, ça veut dire le droit à la liberté d'expression, etc. Tout ça
le droit au travail, aux études, etc.
Alors,
etc.
Tout ça est limité en détention par la force des choses, mais il faut que ça soit équilibré, c'est-à-dire que on n'aille pas au-delà des strictes nécessités de la prison. Bon. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Le code pénal, le code de procédure pénale, permet à des gens d'avoir une entreprise en prison. Bon. Moi, ah je bon. Me suis trouvé un jour avec un gars qui était en prison en Corse et qui a essayé de lancer avec deux compères qui étaient à l'extérieur,
co-détenus.
Non. Des gens qui étaient libres à l'extérieur, une petite entreprise.
De collaborateurs, on va dire.
Oui, mais même de deux associés, je crois que c'est ça le terme. Hein. Et donc, lui avait une partie. Et ça a été considéré comme une menace pour la prison. Donc, il a été envoyé en punition disciplinaire, quasiment dans un autre établissement. Bon, il m'a raconté tout ça. Je lui ai dit, mais tout ça est contraire au code de procédure pénale. Donc, voilà. Ça, c'était le non-respect de la loi. Mais il y a des lois aussi.
Est-ce qu'il a été rapatrié dans sa prison d'origine ?
On n'a pas pu l'obtenir. Et lui, d'ailleurs, ne le souhaitait pas non plus. Il souhaitait aller dans une prison tiers. C'est ça, on a réussi, je crois, à l'obtenir. Et puis, il y a la loi qui n'est pas conforme aux droits fondamentaux de la personne. Je vais prendre un exemple.
Et comment ça se passe ? Alors, quand t'arrives avec un bug comme ça, la loi qui n'est pas respectée,
un exemple précis. En hôpital psychiatrique, quand on entre comme ça, contre son gré, en urgence, en général on est en crise, etc., les médecins vous collent en période d'observation pendant 15 jours au moins pour identifier le mal dont vous souffrez. Période d'observation isolée complètement, aucun contact avec l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez avoir aucun contact avec un avocat, et ça veut dire que vous ne pouvez même pas contester la décision préfectorale qui vous a placé là, dans l'hôpital psychiatrique, contre votre volonté. On a dit, mais ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Vous avez le droit à téléphoner à un avocat. Et non seulement à téléphoner, mais à écrire et puis à contester la décision. Et donc, cette période d'observation ne doit pas faire obstacle à la possibilité de contacter un avocat. Ça, c'est la loi française le permettait, ça. Bon. Et nous avons dit, non, les droits à la défense, qui sont un des droits fondamentaux de la personne, les droits de se défendre, ils n'étaient pas respectés. Donc, on a fait évoluer. Et puis, le Conseil constitutionnel, après, a mis le juge lui-même dans cette affaire-là. Et donc, les choses se sont réglées à deux, si je puis dire, nous et le Conseil constitutionnel.
Juste une dernière question sur les contrôles en eux-mêmes et leurs effets. Vous avez publié pendant 6 ans un rapport annuel. Les contrôles prison par prison étaient notifiés aussi dans des rapports. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire changer ? Vous n'avez pas tout énuméré, mais est-ce qu'il y a eu des résultats concrets, substantiels, ou que, ma foi, le monde de la prison n'a pas été révolutionné par votre action ?
Non, je viens de citer le cas des droits de la défense dans les hôpitaux psychiatriques, mais je pourrais citer aussi d'autres exemples. On a parlé de la visioconférence pour les détenus qui étaient... par visio avec un tribunal, on a dit que c'était inadmissible. Le Conseil constitutionnel a fait chorus bien plus tardivement que nous. Et aujourd'hui, on est un peu plus prudent en la matière. On a fait des trucs sur la nourriture. On a publié des recommandations d'urgence sur plusieurs établissements. Et au Beaumet, notamment, il y a eu des travaux qui ont été engagés tout de suite par Christiane Taubira après notre visite, etc. Donc, on a des choses concrètes. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer. La prison, c'est un paquebot qui vire très lentement. Hein. Donc, il faut s'inscrire dans le long terme. Ça, moi, je l'ai dit aussi à mes contrôleurs. Et je prends un exemple très simple. Dans le premier rapport annuel que vous avez eu l'obligeance de rappeler, moi, j'ai trouvé qu'il était scandaleux de retirer le soutien-gorge aux femmes en garde à vue. Bon. Parce qu'il n'y a aucune nécessité à cela, mais c'est à peu près systématique. Bon. Parce que c'est offense à la pudeur. Et je dois dire que les gardiens de la paix, qui sont souvent des hommes, ne se privent pas d'en faire la remarque. Bon, eh bien, au bout de 6 ans, dans le dernier rapport annuel que j'ai écrit retour sur le soutien-gorge en garde à vue, parce qu'on continuait à l'enlever. Et je ne suis pas sûr que ça ne se poursuive pas encore aujourd'hui. Une mesure aussi bête, aussi attentatoire à la dignité des personnes, on n'a pas réussi à la faire changer. Voilà. Donc, des échecs.
On va,
Alors, Ziad, quand on préparait, tu avais une question sur quand il y a les contrôleurs, ils contrôlent des choses qu'ils voient. Et quand vous n'êtes pas là, un passage à tabac, ça ne va pas se dérouler pendant les 4 jours où vous inspectez une prison. Ça se déroulera avant ou après.
Alors la question, c'est plutôt comment tu fais pour savoir ce qui se passe quand tu n'es pas là. Enfin, quand le contrôleur n'est pas là.
C'est ça.
Mais plutôt, ouais, comment, est-ce que tu cherches à savoir déjà? Et si tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe en dehors, comment tu fais?
Mais on est bien conscient que dans les visites, l'administration pénitentiaire va s'arranger pour nous présenter de la meilleure façon possible. J'ai indiqué tout à l'heure que c'est nous qui choisissions les modalités de notre visite. Le jour, la nuit, les heures de passage, etc. etc. Bon. Alors, est-ce qu'on voit tout? Non, évidemment, parce qu'on s'efforce de nous cacher les autres. Il faut bien être conscient que ces établissements que nous visitons, plus les prisons, plus les commissariats que les hôpitaux psy, c'est des lieux du mensonge, c'est des lieux de la dissimulation. Et d'ailleurs, autant de la part de certains détenus que de la part de certains surveillants. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les interviews. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans une prison, maison d'arrêt de femmes, on nous dit... le surveillant en chef, on va l'appeler comme ça, ça ne s'appelle pas comme ça, le chef de la détention, il agresse sexuellement les femmes. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé systématiquement toutes les femmes détenues de cette maison d'arrêt. Toutes les femmes détenues. Et on leur a dit, comment se comporte le chef de la détention avec vous? Et on s'est aperçu que l'accusation qu'on avait au début de la visite n'était pas fondée. Donc ça, voilà. Mais il y a d'autres cas inverses, naturellement.
Bah heureusement, oui, non, mais il vaut mieux vérifier.
Je vais prendre un autre exemple. On a visité une maison d'arrêt de femmes où on dit le directeur est copain-copain avec une détenue et la favorise de façon éhontée. Bon. Et on a découvert en effet que c'était vrai, que l'administration pénitentiaire n'avait rien vu de tout ça, ou couvrait plus ou moins. On s'est fait engueuler par le directeur interrégional, et finalement, le type a été jugé et condamné. Le directeur. Voilà.
Du coup, c'est pas comme si une loi est favorisante, tu laisses pas passer?
Mais c'est blague à part. Je l'ai dit un petit peu hier soir, mais je le répète ici. Nous n'avons pas droit à l'erreur, parce que si nous laissons passer des violences, passer des traitements discriminatoires, après, qu'est-ce qu'on va nous dire? Mais regardez, ils ne sont même pas foutus de
regarder. Discrédite.
Regardez, ils se sont trompés. Ça veut dire que tout ce qu'on écrira, ça sera jugé comme allant à la poubelle. Et par conséquent, ça rend l'institution totalement inutile. Et je disais à mes contrôleurs, ne vous trompez jamais. Ne vous trompez jamais. Si vous écrivez quelque chose, soyez sûr de ce que vous faites.
Bon, on va passer un petit morceau, une petite cumbia, allez.
Ah oui, ça t'aime bien, Ziad. Hein.
Ouais. Oui, mais alors je vais être privé de Dieu.
T'inquiète pas.
Il va revenir.
Cumbia du Pérou. We'll be right back.
Alors, c'était pas Dioul, mais...
C'était, je sais plus le titre, mais c'était de la cumbia du Pérou.
La cumbia du Pérou. Bon, ce sera tout à l'heure, hein, le morceau. Ouais.
Et oui. Dioul, on repassera bien sûr, parce que j'insiste. moi, je voulais aussi, vu qu'on y était encore, sur les visites, et je voulais juste, juste aborder...
Une petite question, on avait prévu de parler avec Jean-Marie Delary de son parcours personnel, mais vas-y. Encore une petite dernière.
Juste une question sur le côté sentimental et humain. Est-ce que tu as déjà été bouleversé? Enfin, j'imagine, enfin j'espère que tu as été
dans
bouleversé.
Dans ces visites.
Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Ou est-ce que tu as une anecdote, enfin pas anecdote, mais quand même un truc qui t'a vraiment bouleversé, choqué? Comment tu gères ça? Comment tu gères ça avec ton équipe? Comment ça se passe en fait tout ça? Parce que quand même, on est humain. Et voilà.
Il n'y a pas une visite où je n'ai pas été profondément déstabilisé par des personnes, et notamment des personnes qui savent me montrer une humanité formidable, alors qu'elles sont dedans et moi je suis dehors. Voilà. Et que ce que j'en tire comme leçon, c'est que la frontière entre le bien et le mal, il n'est pas entre les prisons et le dehors, il est en dedans de chacun de nous. Et donc c'est cette frontière-là qu'il faut rechercher à faire évoluer. C'est bon. Alors après, ça c'est plutôt drôle, mais c'est pas un bouleversement. Il m'est arrivé de discuter, c'était dans une maison centrale, avec un paranoïaque, un type qui pensait que on mettait, enfin que tout le monde lui en voulait, et en particulier l'administration pénitentiaire. Donc il me fait un peu le récit de son existence, et puis plus il se rapprochait de sa situation actuelle, plus le ton montait et plus il perdait le contrôle de lui-même, et donc je me suis demandé comment tout ça allait finir. Bon, je dis ça sur le ton de l'anecdote plaisante, mais après il y a des cas dramatiques dont je ne veux pas parler parce que je ne voudrais pas évoquer de personnes trop précises ici, mais il n'est pas de visite dont on ne sorte bouleversé, pour répondre à la question. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que moi je voulais des gens armés psychologiquement. Et qu'est-ce qu'on fait pour aussi... on se voit tous les soirs entre nous. Tous les soirs entre
de la visite.
De la visite. On discute de ce qu'on a trouvé, on discute de ce qu'on a vu, et on discute de la manière dont on a pu être déstabilisé, pour qu'on se tienne les coudes. Et ça, c'est absolument indispensable si on veut garder un peu d'équilibre dans les visites.
Alors, qui êtes-vous, Jean-Marie Delarue? Vous avez commencé à répondre avec la question de Zied. On commence à saisir un peu l'homme et sa sensibilité. Vous êtes né le 17 janvier 1945.
C'est pas
vous
tout
êtes,
neuf.
Non, mais vous êtes un enfant de la PEB dans la France fraîchement libérée. Vous êtes né. Mmh. Vous êtes né dans quel milieu social et dans quelle ville?
Dans un milieu social bourgeois, père médecin et origine normande, j'y tiens. Mais j'ai vécu à Paris comme beaucoup de gens de ma sorte. Voilà.
Et vous avez fait des études en rapport avec votre capital culturel, le capital culturel de votre milieu?
Oui,
tout à fait. Agrégé d'histoire.
Oui, tout à fait classique.
L'ENA.
Oui, enfin l'ENA est venue après parce que j'ai commencé un métier de prof en lycée, un petit peu en fac, mais surtout en lycée. Et puis je me suis un peu ennuyé, donc il se trouve que je ne savais pas du tout l'ENA, ce que c'était. Bon, enfin vaguement, mais... Et puis je ne savais pas qu'il y avait un concours interne, c'est-à-dire réservé aux fonctionnaires, l'ENA. Puis un jour, on était dans un logement locatif et il y avait une grève des locataires. On était un peu agissant là-dedans et on rencontre un autre locataire qui on demande ce qu'il fait et dit « Moi, je prépare le concours interne de l'ENA. » C'est que ça. Donc, je me suis dit « Bah tiens, je vais faire ce truc parce que ça me permettra de m'évader du lycée pendant un an. » Et donc, j'ai fait, puis il m'a voulu que j'ai été...
C'était déjà une école prestigieuse. Là, vous nous la faites. « Oh, je fais l'ENA. »
Non, mais parce que... Non. Mais moi, franchement, honnêtement, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et j'étais petit prof ordinaire. Hein, voilà, pas plus.
Vous y avez passé combien d'années?
Où ça?
À l'ENA.
À l'ENA, c'était à l'époque 2 ans et demi, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus.
C'est une bonne école, Macron?
Non,
vous l'a
je me suis ennuyé beaucoup. Non, parce que moi, j'y ai débarqué à 32 ans et j'avais déjà 4 enfants. Et donc, on nous prenait pour des tout petits. Et ça m'a un peu...
C'était très, très boulot scolaire.
Oui, c'était très scolaire. Oui.
Et vous êtes les meilleurs? Vous êtes les meilleurs de France, vous êtes l'élite.
Tout,
non, mais on vous a dit ça au
non,
fil
pas,
de la...
Pas non, beaucoup ça, non. Non, pas beaucoup ça. Je ressens par exemple ça dans d'autres écoles, comme les écoles de commerce, ça, souvent on entend ça, ou l'école de la magistrature aussi, c'est un peu ça. Mais les noirs, non, pas vraiment. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Oh, on dit tellement de choses sur les noirs, je ne veux pas en ajouter ici, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on donne ses chances à chacun d'arriver là. Voilà.
Mais vous êtes, du coup, ça a fait de vous un haut fonctionnaire.
Oui,
hein,
oui,
ce
bien
qu'on
sûr,
appelle
bien
un
sûr,
haut fonctionnaire.
Ça, oui, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de haut là-dedans, mais en tout cas...
Ah, vous êtes un rouage de l'appareil étatique et
oui,
sur
oui,
lequel les citoyens n'ont pas beaucoup de contrôle et qui
oui,
est
oui.
peut-être au jour d'aujourd'hui au cœur de la crise de la démocratie, non ? C'est ce qu'on
oui,
se
oui,
disait
oui,
un peu en préparant Ziad.
Bien sûr, bien sûr.
C'est, oui, ça se passe comment? Alors après, quand on est haut fonctionnaire, par exemple, moi j'ai une question, crûment comme ça, je la sors comme ça, mais par exemple, pour la crise des Gilets jaunes, le mouvement, la fête des Gilets jaunes, c'est pas une crise, hein, c'était une fête quand même. Comment l'État ou les fonctionnaires d'État, les hauts fonctionnaires, comment ça parlait de ça, comment ça fait remuer quelque chose? Comment vous, en tant que vraiment rouage de l'État, je ne sais pas, mais hauts fonctionnaires, vous avez un poste.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les fonctionnaires, haut ou bas,
oui.
mais il n'y a pas de
ou
bas
moyen.
Fonctionnaires, ou moyens, ils sont proches des personnes, et notamment des personnes les plus pauvres de notre pays. Et pour moi, ça, c'est le critère de la bonne administration. Moi, j'ai eu comme responsabilité, à un moment, peu importe, hein, la politique de la ville. Et puis j'ai été trouvé un des personnes dans lesquelles j'avais beaucoup confiance, qui n'est pas un haut fonctionnaire, et qui j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, va voir dans les quartiers ce qui se passe. Et donc, j'avais pas mal de charges administratives, mais tous les vendredis, j'allais passer la journée dans un quartier déterminé, sans tout seul, et en discutant avec les associations locales. Tous les vendredis, systématiquement. J'ai visité comme ça, je ne sais pas combien de quartiers, Lousse des Bois à Pau, enfin des quartiers qu'on ne connaît pas. Bon. Et j'ai appris beaucoup de ces personnes qui avaient beaucoup de choses à dire et qui m'ont donné le sentiment, en effet, qu'elles n'étaient jamais écoutées. C'est comme les détenus. Hein. Que c'est ce qui marque, une des marques de la pauvreté dans ce pays, c'est que c'est des gens, et c'est la crise des Gilets jaunes, qui n'ont jamais le sentiment d'être écoutés par qui que ce soit. Et je pense que la fonction publique n'est pas organisée pour recueillir la parole de ces personnes loin de tout. La fonction publique doit être la première à pouvoir écouter ces personnes-là.
Et elle doit être peut-être aussi le reflet de
oui,
cette diversité de la population française, et les ouvriers, les agriculteurs, les gens habitant les quartiers dits sensibles, ils ne sont pas représentés dans nos institutions démocratiques, Assemblée nationale, Sénat et haut fonctionnariat.
Oui,
c'est peut-être un gros problème, ça.
Oui, c'est un gros problème depuis longtemps, hein,
oui,
je veux
oui,
dire,
Et ce n'est pas spécifique à la
République.
France, mais enfin,
non, ce n'est pas spécifique à la France, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en réjouir. Et je crois en effet que, moi, vous avez évoqué ça tout à l'heure, la réforme de l'ENA. Pour moi, le bon critère de cette réforme, enfin, il y en a deux critères. Est-ce que les démunis vont pouvoir y accéder à ce nouvel institut? Et deux, est-ce que les gens vont pouvoir sortir avec l'idée qu'il faut qu'ils soient proches de la population? Voilà. Deux critères comme ça. Maintenant que ça s'appelle ISP, ENA ou n'importe quoi, je m'en tape éperdument.
Depuis 7 ans que vous avez terminé votre mandat de contrôleur général des lieux de privation de liberté, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie professionnelle, Jean-Marie Delarue?
Alors j'ai essayé de faire que mon expérience serve aux plus démunis, mais pas aux plus démunis catégorie sociale, mais aux États les plus démunis. Et donc, j'ai essayé de me mobiliser sous l'égide du Conseil de l'Europe, qui est un organisme international qui groupe 47 pays d'Europe, pour aider deux pays du Maghreb, le Maroc d'une part, la Tunisie d'autre part, à monter l'équivalent du contrôle général des lieux de privation de liberté dans ces deux pays. Et donc, on a essayé d'apprendre à ces institutions qui étaient un peu en essence, en genèse, comment faire des visites, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On est parti avec des Marocains visiter des prisons marocaines, ce qui n'était pas simple. Et on est parti avec des Tunisiens visiter les prisons tunisiennes. J'ai beaucoup appris d'eux aussi, hein, de ces personnes-là. J'ai découvert des gens formidables qui ont été en tôle sous Hassan II, par exemple. c'était pas particulièrement drôle. Bon, et donc on s'est appris les uns les autres, je crois. Et je crois que cette expérience que j'ai voulu transmettre à d'autres, pour que ça soit, pour que la prévention de la torture gagne du terrain, moi j'ai appris beaucoup aussi à leur contact. Voilà.
Et alors, c'est quoi la alors c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre les prisons françaises et marocaines, tunisiennes? Est-ce que c'est, ça se ressemble? Est-ce qu'il y a vraiment des conditions de vie vraiment où il y a beaucoup d'irrégularités ou...
Toutes les prisons du monde se ressemblent, au sens qu'on enferme les gens dans un océan de contraintes absolues et que c'est une rupture fondamentale avec leur vie habituelle. Mais il y a après des caractères spécifiques. Je vais en prendre un seul, ça va paraître idiot. Dans les prisons marocaines, comme tunisiennes, et comme dans les prisons américaines, d'ailleurs, il n'y a pas de porte de cellule. Elles sont fermées par des grilles. Autrement dit, l'idée qu'on se fait de l'intimité de la personne est différente dans ces pays-là et dans la nôtre. Voilà.
Vous dites souvent, dans la discussion qu'on a, il n'y a pas de bonne prison. Il y aurait une autre solution que l'enfermement qui vous semble antinomique de... l'objectif qu'il affiche, c'est-à-dire réinsérer les gens, leur permettre de retrouver une place dans la société?
Moi, je ne suis pas de ceux qui militent pour l'abolition de la prison, parce que je pense qu'il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, représentent un danger tel qu'ils représentent une menace immédiate pour autrui. Donc, ces gens-là, il faut les mettre à part pour qu'ils n'agressent pas d'autres. En revanche, il y a des infractions pour lesquelles on emprisonne, pour lequel je trouve que c'est totalement inutile. Je vais prendre un exemple volontairement choquant. Les gens qui assassinent leur conjoint.
Conjointes, la plupart du temps.
C'est souvent des conjointes, en effet. Ils ne recommenceront pas. Je veux dire, pour la plupart d'entre eux, ils vivent ça avec une culpabilité absolue, permanente, en disant « mais je me suis coupé moi-même en deux bon. ». Donc la probabilité de récidive... est nul, ou quasiment nul. D'autre part, ils ont le drame des enfants. Parce que moi, j'ai vu un père qui était dans cette situation, en prison, j'ai rencontré, puisque vous me parliez de choses qui m'ont bouleversé, qui essayait de se bagarrer pour que ses enfants ne soient pas placés, comme on disait, hein, à l'assistance publique, comme on disait autrefois. Bon, il a tout fait pour ça, mais de sa prison, voilà. Et puis, ses enfants ont été placés. Et il vivait cette double culpabilité. Un, j'ai tué ma femme, que j'aimais. Deux, je suis cause de ce que mes enfants sont placés. Bon, pourquoi est-ce qu'on fiche ces gens-là en tôle, hein? On pourrait évidemment les prendre en charge, etc. Mais ça ne sert à rien de les coller en prison. Voilà, c'est un exemple choquant.
Mais moi, par exemple, sur cette question, je trouve qu'elle est foireuse, en fait. De se positionner sur l'abolition ou le réforme ou autre chose, en fait, ça met de côté la question de la justice, ce que tu poses maintenant, c'est qu'on ne parle jamais de justice. Alors, l'humain, a priori, je crois, a besoin un peu de justice ou quelque chose.
Absolument.
Donc la prison, c'est pas ça la question. La question, c'est comment on rend justice ou comment on fait justice.
Absolument.
Et la prison, c'est nul, c'est inhumain, c'est ça. Enfin, on ne parque pas des gens. Je trouve pas. Voilà. Donc abolir ou pas abolir, c'est plutôt comment on fait pour que tout le monde se sente bien ensemble, quoi. Enfin, que la justice, elle existe. Après, je ne parle pas de justice étatique ou médiatisée par l'État ou une justice de je ne sais pas quoi.
Justice
je parle
sociale, par exemple.
Non, mais je parle de justice humaine, entre toi et moi.
C'est mon avis. Juste.
Une justice entre nous, dans notre milieu. Mais je ne parle pas des juges, hein, je parle de vraiment comment il m'est arrivé quelque chose ou il t'est arrivé quelque chose, comment tu vas te sentir bien après.
Vous êtes d'accord, ce n'est pas une question intéressante, à abolir ou pas?
Moi, je pense que c'est une question un peu vaine, mais c'est bien qu'on se la pose. Hein. Mmh. Il n'y a aucune question taboue ou idiote, mais je pense qu'elle est un peu vaine parce qu'en effet, on s'apercevra au bout du bout qu'il y a toujours des gens, et c'est vrai pour la psychiatrie, hein, par exemple. Mais ce que moi, je rejoins absolument ce que disait Ed à l'instant. Il faut que... qu'est-ce que c'est que rendre la justice dans une société? Voilà. Et au-delà de la justice appareille, avec ses juges, ses machins, ses robes, ses rentrées solennelles, il y a « j'ai un différend avec mon voisin, comment est-ce que je le règle ?» Bon. Moi, j'ai un parent proche qui vit dans un immeuble, dans une cité populaire, il n'y a pas beaucoup d'isolation phonique, il y a des gens infernaux au-dessus, à l'étage au-dessous plutôt, qui font du bruit jusqu'à 4 heures du matin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va déposer des mains courantes au commissariat, mais c'est un commissariat complètement débordé, cité populaire, il ne vient pas. Bon, qui va régler ce différend? Bon, on ne va pas aller devant la justice, ça ne sert à rien.
Et oui.
Donc,
mais un autre exemple, je suis pauvre, on m'enlève 5 euros sur mes APL, ça fait un repas du soir de moins pour moi et mes enfants. Comment je réagis, comment je peux dans cette société réagir à cette injustice qui me touche dans mon corps? Voilà, ça, ces injustices-là, quand on les aura pris en compte, peut-être qu'effectivement, on ira petit à petit vers une société plus juste.
Oui, voilà. Après, mais je pense que on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, c'est ça.
C'est
ça.
Je voulais revenir là-dessus. Non, moi, t'en as pensé quoi des gilets jaunes et des...
Bah, je pense que c'est des gens qui sont assoiffés de justice. Bon, et qui n'ont pas l'occasion de se dire, dans toutes les revendications que j'ai dans ma vie, y compris les plus bêtes, je n'aurai jamais satisfaction. Donc, c'est des désespoir. Alors, ceci étant, sur les revendications, sur la manière dont ça s'est exprimé, on peut avoir toutes les réserves.
Du coup, tu n'étais pas sur un rond-point, alors ?
Non, je n'étais pas sur un rond-point, parce que je pense que ça rompait avec les traditions de lutte de ce pays qui ont fait leurs fruits. Et je pense que ne pas vouloir avoir de responsable, ne pas vouloir négocier, c'était se condamner à l'échec. Et je pense que ces malheureux-là, étaient voués à l'échec d'une certaine
manière. C'était peut-être poser une question fondamentale, celle de la délégation qui ne fonctionne plus. Et donc, et c'est pour ça peut-être qu'on en parle encore aujourd'hui. Oui. Une dernière question sur votre parcours depuis que vous n'êtes plus contrôleur général. Vous êtes nommé à la tête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme le 10 avril 2019 et vous en claquez la porte le 31 octobre 2019. Pourquoi ? Et c'est quoi cette commission et pourquoi vous en êtes parti
Alors, c'est une commission qui, dans sa forme actuelle, a été instituée par Michel Rocard pour éclairer le gouvernement sur les questions des droits de l'homme en général. Bon, pour moi, la question des droits de l'homme aujourd'hui en France, c'est la question des libertés vraiment fondamentales. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de manifestation. Ça, c'est le premier étage de la fusée droits de l'homme. C'est celui vraiment des droits de l'homme de 1944 au sortir de la guerre. Et puis après, il y a eu un deuxième étage des droits de l'homme qui était, on peut dire, les droits de l'homme des minorités. Minorités entre guillemets, au sens où on l'a entendu dans ces années-là, mais qui ne sont pas en réalité des minorités. Les femmes, les homosexuels, etc. Bon, très bien. Et troisième étage, peut-être encore plus, les droits des enfants, etc. On va catégoriser de plus en plus. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette commission, des gens qui étaient représentatifs essentiellement des deuxièmes et du troisième étage. Alors que je pense qu'aujourd'hui, la question des droits de l'homme en France nécessite qu'on revienne au premier étage parce que je sens que notre démocratie vacille et je sens que nos libertés publiques sont en recul. Donc j'ai essayé de dire, revenons à l'essentiel. Et je me souviens d'une séance où j'ai dit, devant la commission réunie, qu'est-ce que vous pensez du thème la liberté d'expression ? C'est tombé, plouf ! Au fond du puits. Bon. Donc moi, je me suis senti en décalage avec un certain nombre de gens qui étaient là pour représenter des lobbies de droit, le droit de telle ou telle minorité, etc. Donc moi, j'ai pris acte de ce déphasage et je ne leur donne pas tort. Mais moi, je tiens à ma liberté. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas tout né d'hier. Et donc aujourd'hui, moi, je tiens à ma liberté de pensée et de manœuvre. Donc je suis parti. Voilà. J'ai essayé de modifier aussi la manière de fonctionner de cette commission. Je n'y suis pas parvenu. Par conséquent, j'en ai tiré les conséquences. C'est normal. Jules est là.
Jules est dans le coin. On va se passer un petit morceau. Jules, s'il y a moyen.
Il est là.
Il est là. Marseille représente.
Soleil dans la bulle, sur le plateau, chiffre d'arbre. Ma chérie, tiens contre sens. Dans où j'étais quand je m'étais aidé, 5 heures au décence. Je vais nous faire la guerre, par contre c'est aidé. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CD. Téléphone bip, et tu prends la kéo. C'est Marseille bébé, ça m'est rassé dégué. Moi je suis en malasse, tranquille ou pas. Crème dans la chop, j'ai 0 à 100, c'est ce qu'on voit. C'est sûr, t'es tétanisé. J'ai fait le plat de la Tiki-Ta. 2 mois puis je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, tu es un appât, je suis un déjà quitté. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, tu passes la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne de pierre, nique tes morts sur le vieux port. Miami, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers.
comme d'Atito. Si dans le game on claquette sur net, je crois que les points qui tombent de moi sur net. Je suis tout sur un style de toi sur le au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Tonto qui est pas ça, à la cabeça, ratata, tournez ma pizza. Tonto qui est pas ça, à la cabeça, ratata, tournez ma pizza. Plus besoin d'aller chez Lacoste, depuis que tu fais dans les platines. Merci qui parle moins de la team. En train d'organiser, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, j'ai pu m'affuser. C'était par les banalisés.
Hasta la luego, pesan. Hasta la luego, pesan. Hasta la luego. Hasta la luego.
C'est du Ben Carcara. Rap depuis les portes de Cara. Pas tout le cours de ma rap. Participe, mon corps se barrage. J'ai ma star Cara. Recherché à quel j'marrage. M'envoie une frappe imparable. J'vais couler sans mascara. Le truc, j'y sais le S.
Je commence le rap avec 7 et 3. À la rivière, j'ai touché la canne. Yo, je vise vers le platine. À la base, c'était les assises. Je fais de sympa, un petit zou. Chauffeur Ricara, bouchon. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir, plus de 3, c'est ta gomme. Et ça fait sous la café. Oh, café. Oh, un cavale. Je suis dans le bas de la tête. Visité par la banale. Et ça fait sous.
En monde organisé, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, et c'est par les banalisés.
Hasta luego, pesan. Hasta luego, pesan. Hasta luego. Hasta luego.
C'était Joule, pas que Joule en fait, il y avait Joule, Nap, SCH et toute une clique de Marseillais qui ont fait ça. Le morceau il s'appelle Bande Organisée, un peu un hymne à s'organiser en bande, je crois, c'est un peu ça, de manière mafieuse ou pas, ou en tout cas de manière à s'organiser et de s'en sortir ensemble, quoi. Bon, ça c'est, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, on va clore un peu, on va clore.
Oui, en fait, question de fin d'entretien à Jean-Marie Delarue.
Eh bien oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que tu as des regrets, mis à part ne pas avoir réussi à abolir la prison, est-ce que tu as d'autres regrets?
Moi, mon regret, il touche surtout des personnes. Alors, il y a des détenus qu'on n'a pas pu aider comme ils attendaient de nous, parce qu'on n'a pas réussi à infléchir la position de l'administration à leur égard. On parlait dans un atelier ce matin... des transgenres. On est entré en relation assez continue et pendant plusieurs années avec une détenue de Caen qui essayait donc d'acquérir un genre de femme. Donc qu'est-ce que c'était que... Est-ce qu'il faut le maintenir dans le quartier homme? Est-ce qu'il a le droit de porter des vêtements féminins? Qu'est-ce qu'on fait pour les douches? Etc. Toute une série de problèmes. Et je pense que elle s'en est mal sortie. Je pense à un détenu de la maison d'arrêt de Bayonne, qui était là d'ailleurs pour une peine très légère, qui a été suspecté par des co-détenus de les avoir dénoncés, ce qui était faux. Il s'est fait violer à coups de manche à balai dans une douche. Il en est sorti très très mal. Et puis je l'ai rencontré un jour en centre de détention, puis on s'est lié pas mal. Je me suis occupé de ses gamins, etc. Bon, et puis ça a mal tourné aussi, et après sa libération, il s'est suicidé. Donc tout ça, c'est des choses que je regrette énormément. Alors après, il y a des choses plus fondamentales aussi peut-être, qui sont de avoir pu faire évoluer le système, évidemment, comme on le désirait. Plus précisément, de ne pas avoir noué aussi avec le personnel des relations de confiance, parce qu'on est toujours regardé avec méfiance, alors qu'on a fait, on a essayé de faire en sorte qu'on gagne leur confiance. Les directeurs, ça allait, mais le personnel de surveillance, c'était plus compliqué. Et donc, moi, j'ai essayé aussi de faire une association indépendante de l'administration pénitentiaire, composée d'anciens pénitentiaires, pour avoir un point de vue sur la pénitentiaire qui soit différent. Je n'y suis pas parvenu. Un autre regret, j'ai des regrets de ne pas avoir su convaincre assez les gouvernements que c'était là un sujet important, que c'était lié à la question sociale des quartiers, des cités sensibles, etc. Bon, et sur ce point-là, je n'ai pas été suivi. Regret de voir la société, on rejoint des questions plus fondamentales, j'élargis mon entonnoir à une société axée sur le sécuritaire qui conduit à repeupler et à surpeupler les prisons, à surpeupler les hôpitaux psychiatriques. Savez-vous que les hospitalisations sous contrainte, c'est-à-dire non volontaires, augmentaient entre 2000 et 2010 à 25% par an. 25% par an. Et c'est pas parce que la maladie se propage. La maladie mentale, elle est stable. C'est pas comme un virus qui se propage. Pourquoi ça augmente de 25% par an? Parce que les manifestations de folie sont de plus en plus intolérables à nous autres. Bon. Donc ça aussi, c'est un regret. Donc il y a des tas de choses que je regrette. Et donc on a fait ce qu'on a pu. Mes collaborateurs ont été formidables. Mais moi, c'est vrai que je porte des regrets.
Bah, vous êtes en train de nous dire que la tâche de Dominique Simoneau, l'actuelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui est présente à Diolfi pour Concertina aujourd'hui, que vous pourrez peut-être rencontrer dans un atelier, dans la rue. Je dis ça pour vous, Jean-Marie Delarue, mais aussi pour les auditeurs de Ici l'Ombre. Sacré boulot devant elle, alors.
Tant mieux pour elle, mais je pense qu'encore une fois, ce sont des évolutions de long terme, mais qui exigent aussi, pour des personnes précises et des situations précises, des remèdes très rapides.
Ziad ? Je voulais juste, pour qu'on finisse pas que sur des regrets quand même.
Merci.
Quelles ont été tes joies et tes plaisirs et qu'est-ce que tu en as tiré humainement ? Est-ce que tu en as. Moi, je ferais ça, je pense que j'y gagnerais humainement, même si je serais dévasté à la fin. Mais quand même, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Oui, moi, je l'ai dit, c'est des rencontres humaines. Il y a des, autant du côté du personnel d'ailleurs, hein, il y a des gens absolument exceptionnels qui ont une espèce de sacerdoce là-dedans, bon, qui fait des miracles. Et puis du côté des détenus, hein, encore une fois, épargnons-nous le risque, on peut résumer cette émission, de cataloguer les gens et de séparer les gens en bien et en mal. Voilà. Mais j'ai fait des expériences humaines à chaque visite, oui, formidable. Voilà. Donc ça, c'est une joie du métier qui vous porte et qui vous transporte si possible.
Bon, ouais, c'était vraiment une joie pour nous de vous accueillir sur Ici l'Ombre. Merci Jean-Marie Delarue.
On finit avec le petit morceau que tu avais choisi.
Super. Et puis derrière
c'est
nous...
C'est pas Dioul.
Non, c'était le morceau d'avant Dioul.
Je t'en ferai un autre après. Tout le week-end, il y a du Dioul, t'inquiète pas.
Et puis après nous, on laissera la place à Louis Perregaux pour ses actualités des enfermements.
Voilà, et le morceau, c'est Tiefen, la fille du coupeur de joint.
Sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se tape bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'il nous prend par là. bataille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zipplin, la fille de Cooper de juin, la fille de Cooper de juin. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin à soin, la fille de Cooper de juin, la fille de Cooper de juin. Quand on eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Plus question de chercher du travail. Pédaler dans les nuages au milieu des petits lapins, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du...